Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Armer une partie des enseignants américains pour protéger les élèves dans les établissements scolaires. Voici la nouvelle proposition controversée de Donald Trump qui a reçu hier soir des lycéens et familles de victimes à la Maison Blanche. Nous irons à Washington dans un instant.
Nous rejoindrons ensuite la Ruta orientale en Syrie où la population attend désespérément l'aide internationale. Et puis en Russie où les diplomates pourraient s'abstenir pour faire voter une trêve internationale.
Un millier de jeunes agriculteurs français à l'Elysée ce midi. Emmanuel Macron va entendre leurs doléances, notamment sur l'accord entre l'Europe et le Mercosur qui souhaite libéraliser la vente de viande bovine.
D'ailleurs, les agriculteurs à l'Elysée, dans son billet politique, dans un quart d'heure, Frédéric Seitz reviendra sur l'utilisation des lieux de pouvoir par Emmanuel Macron.
Avant cela, les négociations sur la réforme de l'assurance chômage sont-elles en train d'avancer ou de reculer? Dernière séance aujourd'hui et les partenaires sociaux ont bien du mal à se mettre d'accord sur les contrats courts et d'éventuelles sanctions, vous l'entendrez. Mais d'abord, cette évacuation lancée ce matin au lever du jour au bois Le Juc à Bure, dans la Meuse, occupée depuis près de 2 ans par des militants. Un site qui devait accueillir le projet, qui doit accueillir le projet CIGEO, un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Véronique Roberotte, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste environnement de France Culture, vous revenez tout juste de Bure. C'est le ministère de l'Intérieur ce matin qui annonce les gendarmes ont investi le site.
Absolument. Hier, j'ai pu constater sur place une présence policière effectivement, j'allais dire extrêmement visible, habituelle selon les opposants sur place, puisque depuis notamment l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, les policiers sont très présents sur le site de Bure, dont on dit que ce pourrait devenir une future ZAD. Alors le bois Le Juc qui est évacué ce matin est très emblématique de la lutte contre CIGEO, contre ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires. C'est un bois de 220 hectares, un peu perdu au milieu de nulle part, au milieu de la boue. En ce moment, il se trouve à l'endroit même, à l'aplomb du futur site de stockage, conçu pour confiner à 500 mètres sous terre. Je le rappelle, c'est le projet dans 300 km de galerie, eh bien 80 000 mètres cubes de déchets hautement radioactifs qui seraient confinés là pendant des milliers d'années. Le bois avait connu sa première occupation en juin 2016, il y a 2 ans, avant que ses occupants ne soient délogés en juillet 2016, 3 semaines plus tard. Et puis, pour sécuriser ce site, un mur de béton, il était prévu qu'un mur de béton soit érigé pour transformer le chantier en camp un peu fortifié. Ce mur avait été abattu, cette fois par les habitants qui s'opposaient bien sûr à cette poubelle nucléaire, disent-ils. Et ils ont réinvesti le site depuis. Impossible de savoir combien ils sont. Hier, je n'ai pas pu y pénétrer. Comme à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, leur nombre varie. L'évacuation, en tout cas, est plus simple que sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Landes, plus facile à réaliser car moins de monde et des gens moins, organisés et présents.
Alors justement, Véronique, vous parlez du site de Notre-Dame-des-Landes qui était évacué il y a un tout petit peu plus d'un mois près de Nantes. Là aussi, il s'agissait d'une zone à défendre pour les militants. Quel message envoie le gouvernement avec cette nouvelle évacuation ce matin à Bure?
Je dirais que c'est une confirmation du message du Premier ministre Édouard Philippe après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Il n'était pas question, avait dit le ministre, de laisser s'installer en fait et perdurer d'autres occupations ailleurs sur le territoire. Le message du gouvernement donc est extrêmement clair. Ce qui a marché à Notre-Dame-des-Landes avec une sortie du dossier, on va dire, favorable aux opposants, ne marchera pas ailleurs, et notamment à Bure. Il voulait éviter à tout prix le transfert aussi de zadistes de Bure, de Notre-Dame-des-Landes sur le site de Bure. C'est ce que craignait le gouvernement, et ce que craignent aussi, j'ai pu l'entendre hier, les élus sur place. Voilà, donc, en tout cas, cette visite coïncide aujourd'hui avec une visite précise, cette évacuation avec la visite sur place pendant 2 jours du secrétaire d'État Sébastien Cornu, qui est secrétaire d'État au ministère de l'Environnement. Voilà, donc on peut juste trouver qu'il y a une coïncidence intéressante. En tout cas, les opposants devaient être reçus et doivent être reçus par Sébastien Lecornu demain matin. En tout cas, c'est une vraie déclaration de fermeté de la part du gouvernement.
Merci Véronique Roberotte pour ces premières précisions ce matin dans le journal de 8h. Des étudiants américains de différentes écoles touchés par des fusillades, des parents de victimes aussi, tous assis en cercle dans un vaste salon de la Maison Blanche, Donald Trump au milieu. Une semaine après la tuerie de Parkland en Floride qui a fait 17 morts, le président américain a voulu hier soir se montrer à l'écoute. Les lycéens demandaient une législation plus ferme sur le port des armes à feu aux États-Unis. Il leur a répondu par une proposition déroutante, armer les enseignants. Grégory Phillips a suivi cette soirée pour France Culture.
Cette session d'écoute, comme l'a qualifié la Maison Blanche, débute par une prière à la mémoire des 17 victimes de Parkland. Puis les témoignages s'enchaînent pendant 1h15. Andrew Pollack a perdu sa fille Meadow, elle avait 18 ans. Elle était élève au lycée Marjorie Stoneman Douglas. Je suis fou de rage parce que je ne verrai plus jamais ma fille. Là, on ne parle pas de la réglementation sur les armes, ça c'est autre chose, un autre combat. Moi, ce que je veux, c'est qu'on assure la sécurité dans les écoles d'abord. Demain, lundi, quand ils iront à l'école. Puis, après avoir entendu des élèves, des parents de victimes, des enseignants de Parkland, mais aussi de Columbine et Sandy Hook, le président assure que le contrôle des antécédents judiciaires sera renforcé et surtout, il met sur la table une proposition. Armer les enseignants, environ 20%, dit Trump, des équipes pédagogiques. Une attaque, ça dure en moyenne 3 minutes. Il faut 5 à 8 minutes pour que les premières forces de l'ordre interviennent. C'est trop tard. Alors que si vous avez un professeur équipé d'une arme, il peut faire en sorte que ça se termine très vite. On va vraiment examiner ça de très près. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont apprécier cette idée. La réunion se termine. Donald Trump annonce que la semaine prochaine, il réunira ici à la Maison-Blanche les gouverneurs de chaque État pour renforcer la sécurité dans toutes les écoles du pays.
Des réunions qui s'enchaînent, des mobilisations aussi. Hier encore, des lycéens ont manifesté en Floride pour réclamer une législation plus stricte sur le sujet. Une grande marche est par ailleurs prévue le 24 mars prochain. Nous allons à présent en Syrie, tristement en une de l'actualité encore, avec des bilans qui ne cessent de s'alourdir. Au moins 320 civils, dont 76 enfants, ont été tués ces 4 derniers jours lors d'intenses bombardements du régime sur la Ghouta orientale, un fief rebelle à l'est de Damas. Pour savoir ce qu'il s'y passe, pour comprendre le quotidien de ces personnes prises au piège dans la guerre. Laure Stéphane nous raconte, témoignages à l'appui.
Les rues de Harasta, une localité de la Ghouta orientale, sont désertes. Dans cette ville, les frappes aériennes des forces pro-régime ont été moins intenses qu'ailleurs au cours des derniers jours, mais elles restent violentes. Les gens se terrent dans des abris, la peur au ventre. Youssouf Ibrahim, membre du conseil local de Harasta.
Je pense que la situation va empirer. Au moment où l'on se parle, les hélicoptères et les avions de chasse sont toujours dans le ciel. Ils bombardent et mènent toutes sortes d'attaques contre les civils. On ne sait pas ce qui nous attend.
Le conseil local essaye de fournir des services aux habitants, mais le temps pour agir est très limité. Selon Youssouf Ibrahim, c'est peu après l'aube lorsque les bombardements sont moins forts, explique-t-il.
Le principal service que le conseil local fournit aux gens dans les abris, c'est de l'eau potable. La nourriture n'est pas disponible dans la Ghouta orientale. Il n'y a pas de marché, les habitants ne peuvent pas se déplacer sous des bombardements aussi fous.
La conversation s'interrompt brusquement alors qu'on entend les bombardements s'intensifier. Pour pouvoir communiquer, le jeune homme est hors d'un abri et le moment est devenu trop dangereux.
La peur en Syrie et peut-être une trêve à venir concernant la Ghouta orientale. Emmanuel Macron demandait hier un cessez-le-feu dans les meilleurs délais, condamnant l'attaque de civils par le régime syrien. Et ce jeudi, aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit et pourrait voter une résolution en ce sens, rédigée par la Suède et par le Koweït. Encore faut-il que la Russie n'y mette pas son veto. Une abstention devrait suffire pour faire passer ce texte. Et selon certains diplomates à Washington, Moscou pourrait y consentir, car sa diplomatie est en difficulté en ce moment, Claude Bruyot.
Il y a bientôt un an, à Astana, les Russes se sont fait fort d'avoir obtenu des belligérants syriens la création de zones de désescalade dont la Ghouta faisait partie. Les bombardements actuels sur cette région et les victimes civiles qu'ils entraînent fragilisent encore un peu plus les démarches du Kremlin dans son rôle de faiseur de paix. Après l'échec de la conférence de Sotchi il y a 3 semaines, la Russie, qui vient de reconnaître officiellement de nombreuses victimes russes parmi un contingent de paramilitaires, est désormais contrainte de repasser par la case onusienne, comme si elle éprouvait le besoin de prendre un temps de recul, également en retrait face à l'offensive turque au nord-est de la Syrie. Le Kremlin pourtant ne lâche rien et vient d'annoncer son intention de renvoyer aux côtés de l'armée de Bachar al-Assad un général d'aviation. Vraie ou fausse indication pour laisser entendre que la campagne de bombardement va se poursuivre.
Des bombardements toujours, c'est sûr, à Idleb, notamment contre le groupe État islamique en Syrie toujours. Voici autant d'exemples de non-respect des droits humains. Dans son rapport annuel d'ailleurs, Amnesty International constate que ces droits ne sont dans aucun pays dans le monde considérés comme acquis. Que ce soit dans les pays en guerre, Syrie, Irak, Afghanistan, pays sous blocus comme le Yémen, victimes de corruption, Kenya, Afrique du Sud, Russie. Dans des pays aussi qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, mettent de côté ces droits humains. Et c'est une dérive de plus en plus visible, déplore Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International France.
Toute lutte contre le terrorisme qui se ferait au détriment des droits humains devient contre-productive. Si les droits fondamentaux sont bafoués, y compris dans des démocraties, au nom de la sécurité, au nom du fait qu'on veut protéger la population, on finit par mettre en danger le monde entier. On voit bien aussi dans des démocraties telles que les USA, mais aussi la France, que la lutte antiterroriste conduit à des dérives en passant par la surveillance Internet qui finit par porter atteinte à la liberté d'expression et bien sûr au droit à la vie privée, en passant également par des interdictions de manifestations qui deviennent excessives, par des répressions policières qui deviennent excessives et par aussi une stigmatisation d'une partie de la population. Et tout cela finalement crée un terreau à la fois pour que des citoyens ordinaires finissent par dire « bon, mais les droits humains, c'est pas si important que ça si je veux vivre en sécurité ». Et c'est aussi un terreau pour que des personnes qui se sentent stigmatisées, marginalisées, ne croient plus en la justice et pourraient du coup être tentées à son tour par des dérives vers le terrorisme. Donc nous avons tout à gagner à défendre ensemble ces droits fondamentaux et à trouver un juste équilibre entre le fait, bien sûr, de garantir la sécurité des citoyens, de chercher à lutter contre le terrorisme, mais dans le même temps, être toujours vigilant sur le fait que ça n'est pas au détriment des droits humains.
Cécile Coudriot, interrogée par Nadine Epstein. L'opposition vénézuélienne ne souhaite pas participer à la présidentielle anticipée le 22 avril prochain, un scrutin illégitime selon elle. De nombreux membres de l'opposition sont en ce moment en prison ou en exil. Et qu'importe pour le président actuel du Venezuela, candidat à sa succession Nicolas Maduro, il va plus loin et propose maintenant des législatives anticipées le même jour que la présidentielle.
8h11 sur France Culture, les agriculteurs craignent une concurrence déloyale de la part des pays du Mercosur.
Le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Ils négocient avec l'Union européenne un accord de libre-échange qui fait craindre aux agriculteurs français l'importation massive de viande bovine sud-américaine sans droit de douane. Hier déjà, 20 000 agriculteurs étaient mobilisés dans près de 90 départements. Ce midi, Emmanuel Macron recevra un millier de jeunes agriculteurs à l'Élysée. Il est prié de montrer sa bonne volonté, souligne au micro de Valentine Joubin, Jérémy Deserle. Il est président des jeunes agriculteurs.
Je crois pas qu'on puisse attendre du président de la République qu'il donne des mesures précises. Il faut qu'il nous donne un cap et puis qu'il nous explique quelle est la stratégie et qu'il nous explique comment il veut faire demain pour maintenir des paysans. Si vous voulez, quand il met les états généraux de l'alimentation en place et puis que ça se passe comme ça s'est passé, on a plutôt tendance à être rassuré. Mais quand à côté de ça, en parallèle, il va signer lui ou son gouvernement, va signer des accords avec les pays du Sud, même s'il n'est pas tout seul et qu'il y a l'Europe et que ça, on n'est pas tout à fait naïf et on arrive à le comprendre, on a de quoi ne pas être rassuré. Donc, il faut qu'il nous explique et il faut quand même qu'il soit assez punchy quand même pour nous rassurer.
Un accord à 99,9% sur la formation professionnelle. Les partenaires sociaux ont négocié jusque tard cette nuit, réunion de relecture prévue cet après-midi. Mais dans l'ensemble, le texte est écrit. Il devrait donner plus de poids aux volontés individuelles, comme la garantie d'une mise à disposition d'un conseiller à proximité du lieu de travail, ou encore une augmentation de moitié des droits individuels pour la formation. Des négociations qui vont de pair avec les pourparlers sur l'assurance chômage. Là, c'est aujourd'hui que doivent se terminer les discussions. Dernière chance même en une semaine. Et ce sont toujours les contrats courts qui divisent syndicats et patronats. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Clara.
On s'était quitté la semaine dernière avec la menace d'un bonus-malus imposé par le gouvernement. Annabelle, que s'est-il passé ?
Eh bien, rien ou pas grand-chose. Les syndicats avaient demandé au gouvernement d'annoncer clairement ses intentions et même de les poser à l'écrit avant la dernière séance de négociation. Le gouvernement n'en a évidemment rien fait. Tout au plus, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a fait savoir par presse interposée que le gouvernement était déterminé à agir si aucun accord n'était trouvé entre partenaires sociaux. Mais elle n'a pas donné de précision sur le dispositif. Quel bonus-malus, dans quelle proportion, à quelle hauteur? Les syndicats vont donc devoir de toute évidence attendre la semaine prochaine pour le savoir, car il est fort probable qu'il n'arrive à aucune autre concession de la part du patronat sur la question des contrats courts. La dernière mouture du texte patronal n'a en effet guère avancé en une semaine. Ce matin, le patronat ouvre en effet la porte à ce que toutes les branches négocient sur la question, mais de sanctions financières, il n'en est toujours pas question. En tout cas, cela ne viendra pas de lui, semble-t-il confirmé. Et puis par ailleurs, sur le dossier des missionnaires, les critères se sont encore plus resserrés. Selon le texte patronal, il n'est plus possible pour un salarié souhaitant démissionner en vue de créer ou de reprendre une entreprise, de bénéficier de l'assurance chômage. Le projet d'accord limite l'enveloppe destinée à financer l'intégration des démissionnaires à 150 millions d'euros, ce qui limiterait le dispositif à 10 000 bénéficiaires maximum. Et ce changement constitue évidemment une ligne rouge aux yeux de certains négociateurs comme Force Ouvrière ou la CGT. Autant dire que la perspective de trouver un accord ce soir s'éloigne sensiblement.
Annabelle Grelier, merci. Signalons encore une grève chez Air France ce jeudi. Un vol sur deux de Paris n'est pas assuré, conséquence d'un appel à la grève lancé par 10 syndicats. Ils demandent des augmentations de salaire, plus 6% pour tout le monde, estimant que la compagnie va mieux. Air France ayant renoué avec la croissance, plus 42% de bénéfices d'exploitation l'année dernière. Et puis en bref, encore, des proches de Jean-Luc Mélenchon ont-ils profité de prestations surfacturées pendant la campagne présidentielle? Question posée par la cellule investigation de Radio France ce matin après la démission d'un rapporteur de la commission des comptes de campagne. Il met en avant des dépenses douteuses, validées et en partie remboursées par l'État. Quelques mots de la météo de ce jeudi qui commence. Un temps plutôt calme avec un grand soleil sur la majorité du pays. Quelques nuages apparaîtront sur le sud-est et les températures assez froides. Moins 2 degrés ce matin à Lyon et à Dunkerque, moins 1 à Besançon. Comptez 0 à Paris et à Clermont, 1 à Rennes, 5 à Marseille, jusqu'à 8 à Nice.